Les attentats du Stade de France, des terrasses et du Bataclan ont eu lieu le vendredi 13 novembre 2015. Nous sommes le vendredi 12 novembre 2021. Hors norme, c'est le mot qui ressort le plus pour qualifier le dispositif déployé pour le procès de ces actes terroristes qui ont fait en tout 130 morts et 1874 blessés. 145 journées d'audience prévues jusqu'en mai 2022, 1765 personnes constituées partie civile, 330 avocats dans une salle d'audience de 700 mètres carrés construite pour l'occasion. Côté médias, le dispositif est tout aussi impressionnant. En tout, 141 médias officiellement accrédités, dont 58 venus de l'étranger. Les journalistes présents suivent le procès depuis le 8 septembre avec son flot d'émotions et de paroles à retranscrire. Oui, mais quelle parole choisir? Quelle histoire brisée plutôt qu'une autre, mettre en avant dans ses articles, dans ses reportages, choix parfois impossible. Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Vous êtes reporter au service police-justice d'Europe 1, c'est vous qui suivez le procès pour notre station. Bonjour Guillaume Auda.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, notamment pour l'émission La Fabrique du mensonge pour France 5. Pour commencer, si vous deviez garder un moment fort de ce procès depuis la rentrée jusqu'à aujourd'hui, ce serait lequel, Gladys Laffitte?
Alors moi, c'est le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Aurélie, qui a perdu son mari au Bataclan. Elle était enceinte de leur deuxième enfant. Et elle a raconté d'une voix très douce. C'est une jeune femme qui est vraiment très douce, très tendre. Elle a raconté ce que c'était le deuil, l'absence de l'être aimé. Et c'était vraiment très, très touchant, à tel point qu'on a tous été vraiment scotchés. Moi, j'ai arrêté de prendre des notes, en fait, ce qui arrive quand même très rarement. J'étais vraiment dans son récit. Elle nous a bouleversés. J'ai entendu les confrères et moi aussi, il faut bien le dire, voilà, verser une larme. Elle était vraiment bouleversante. Et ce qui était intéressant, c'est que vraiment, c'était cette douceur, en fait. Et la reconstruction derrière et la force, en fait, qu'elle a dégagée. Moi, voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, ce témoignage.
Guillaume Auda, même question.
Moi, je dirais que le moment fort, c'est le procès, en fait, en tant que tel. Il est hors norme, hein, comme vous l'avez dit, Philippe. Il est hors du commun. Ça fait 2 mois qu'il se déroule. Il est vraiment de très, très, très haute tenue. Alors, évidemment, on est des êtres humains. Gladys, elle l'a dit. Moi aussi, j'ai versé quelques larmes parce que face à cet océan de détresse, littéralement déposé à la barre, 5 semaines de témoignages, difficile, à un moment donné, de rester tout à fait strictement professionnel. À mon avis, fort, c'est aussi les propos qui ont été tenus par Salah Abdeslam, qui est quand même le dernier membre survivant des commandos du 13 novembre. Il n'avait pas parlé pendant 5 ans d'instruction, et là, il se met à parler. Nous, journalistiquement, c'est important à un moment donné d'en faire état, même si on est sur ligne de crête. Est-ce qu'on est dans la propagande? Est-ce qu'on est dans le journalisme? Tout ça sont des questions qui sont très délicates. Et je dirais que le dernier moment, il s'est passé cette semaine. C'était mercredi, avant l'audition de François Hollande. La défense des accusés, elle s'est levée. Certaines avocates et certains avocats des accusés ont tenu à réaffirmer certains principes de droit très forts autour de la citation de certains chercheurs, sociologues. En gros, est-ce que quand on n'est pas témoin des faits ou de la personnalité des accusés, on a le droit de venir contextualiser à la barre, donner une lecture de telle ou telle notion du djihadisme, d'islamisme? J'ai trouvé très fort qu'on se pose cette question en creux. Est-ce qu'on est sur un plateau de télé dans cette salle d'audience ou on est sur un procès d'assises qui cherche à juger des accusés?
Pourquoi vous parlez de plateau de télé? C'est parce qu'il y a des caméras. Je précise que le procès est enregistré pour l'histoire, mais évidemment, on n'est pas diffusé. Vous avez parfois l'impression qu'il y a un show qui se déroule. Je vous pose la question, Guillaume Audia, je poserai la même à Gladys ensuite.
En tout cas, c'est exactement cette question qu'on cherchait à soulever certains des avocats.
Non, mais s'ils le disent, c'est qu'ils le ressentent. Moi, je suis pas au procès. Est-ce que vous ressentez ça parfois, vous assistez à un show en plus d'un procès?
Pour le moment, je dirais, d'un point de vue personnel, non, dans la mesure où on a des témoignages de victimes et elles ont toute légitimité à être entendues. Et pour le moment, on a des policiers qui viennent expertiser et raconter à quel point, sur les constatations, il était nécessaire d'apporter de la connaissance. Maintenant, le procès dure encore 7 mois, et là, des chercheurs, des sociologues vont venir livrer une lecture. Est-ce que ça sera un plateau télé? Ça, j'en sais rien.
Gladys
Laffitte. Non, parce qu'on est dans une salle d'audience déjà qui a été construite spécialement. C'est vraiment une bulle. On n'est pas à l'extérieur. Il y a très peu de choses de l'extérieur qui viennent perturber le déroulement du procès d'assises, qui est, comme tu l'as dit, Guillaume, extrêmement bien tenu, notamment par le président Périès. C'est pas un show. En revanche, c'est vrai que la venue de sociologues et de chercheurs pose question, en tout cas au niveau des avocats de la défense, parce que c'est une expertise qui vient amener. C'est ce qu'on entend effectivement sur les plateaux télé quand on vient contextualiser ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le djihadisme? Voilà, c'est l'historique en fait de tout ça. Donc la question peut se poser. Elle a été tranchée du coup avant-hier, puisque ces chercheurs et ces sociologues vont venir déposer à la barre.
Guillaume Auda, en plus de couvrir le procès, vous aviez couvert à l'époque les attentats du 13 novembre. Est-ce que cela rajoute pour vous une émotion supplémentaire?
Oui, dans la mesure où en fait j'ai un peu le sentiment de boucler une boucle, Philippe, c'est-à-dire qu'en effet je suis arrivé très très vite au Bataclan. On a même d'ailleurs un peu reconstitué la manière dont les faits s'étaient déroulés. Je sais vraiment précisément quasiment à quel moment je suis arrivé, donc autour de 10 heures, ça tirait encore à intervalles réguliers à l'intérieur du Bataclan.
Vous entendiez les coups de feu?
Oui, absolument, des claquements secs de Kalachnikov très très caractéristiques, ceux qu'on entend sur les terrains de guerre concrètement au proche au Moyen-Orient. Donc on sait dans quel état on se trouve à ce moment-là. Je comprends qu'en fait maintenant, après coup, 6 ans après les faits, qu'un policier de la BAC est en train de tirer sur un des terroristes à l'intérieur, qui est en fait un kamikaze qui s'est fait exploser. Je comprends que 2 autres terroristes en fait lui tirent dessus à ce policier. Et moi, c'est à ce moment-là que j'arrive et je suis très prudent à ce moment à l'antenne en disant, on me dit, parce que des témoins sortent en larmes, que des assaillants sont à l'intérieur, et moi j'avance avec beaucoup de prudence à l'antenne puisque je fais des directs à ce moment-là. Et en effet, bon bah en effet, 6 ans plus tard, j'ai l'impression de boucler une boucle. Ouais.
Est-ce que ça revient parfois? Est-ce que vous faites des rêves récurrents? Je ne vais pas parler de stress post-traumatique. Je pose la question parce qu'il y a un dispositif de soutien psychologique qui a été mis en place. Est-ce que vous reviennent des images du Bataclan, Guillaume Audat?
Alors je me suis aperçu de 2 choses. C'est-à-dire que je m'étais construit un mur, très honnêtement. Je ne m'étais pas vraiment intéressé aux histoires de victimes. Je m'étais tout de suite concentré sur l'enquête policière. J'étais très vite parti à Molenbeek. Et puis là, 6 ans plus tard, en fait, j'entends en fait les drames qu'ont vécu celles et ceux qui ont été directement impliqués dans ces attentats au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan. Et pour répondre à votre question en toute franchise, Philippe, moi j'ai fait appel à ce dispositif qui a été offert aux journalistes. C'est assez inédit, hein. J'ai été voir un psychiatre militaire, un peu déballer mon sac et un peu lui raconter que ça a été effectivement dur à un moment donné d'encaisser tous ces témoignages et de rester journaliste. En fait.
Ça se passe comment? Il y a des psys qui sont dans le tribunal, on vous donne un numéro de téléphone, vous allez les voir, ça se passe à l'intérieur, à l'extérieur, comment ça se passe?
Alors,
concrètement
pour les victimes qui sont en
pour
salle
vous,
de...
Pour les journalistes.
Pour les journalistes, comment est-ce que ça se passe? C'est qu'en fait, on a une référente à laquelle on s'adresse et on est tourné ensuite dirigé vers un hôpital militaire, donc hors les murs, hors du palais de justice. On rencontre un psychiatre avec lequel on s'entretient 2 fois 2 heures et c'est assez pertinent, j'ai trouvé.
Gladys Laffitte, est-ce que vous-même vous avez fait appel à cette aide psychologique? Et au-delà de ça, est-ce que vous-même vous subissez parfois les conséquences de ce que vous vivez? Parce que j'imagine qu'on ne sort pas de ces récits indemnes.
Alors moi, je n'ai pas fait appel à l'aide psychologique, pas pour l'instant. Après, je ne m'interdis pas de le faire. Je l'ai fait en revanche à l'époque des attentats, puisque j'ai couvert aussi. Alors moi, il se trouve que j'étais près du Carillon. Donc je suis arrivée très vite sur place et j'ai vu...
Le Carillon, c'était une terrasse.
Exactement, les terrasses dans le 10e et dans le 11e, pardon. Et j'ai vu des corps, etc. Donc moi, ça m'a marqué très longtemps après. En revanche, sur le procès, cette émotion, elle est parfois difficile à contenir. Après, on a un filtre, c'est-à-dire qu'on est journaliste. Déjà, il y a l'ordinateur. Alors, c'est quelque chose de tout bête, mais ça nous traverse. Et du coup, il y a comme un filtre devant nous. C'est vrai qu'il y a certains soirs, on rentre, on n'est pas terrible. Alors, il y a le trajet en métro qui permet un peu d'évacuer. Puis, il y a les proches qui sont là. Moi, on m'a jamais autant demandé comment j'allais alors que je couvre des procès en temps normal et certains qui sont aussi très durs. Donc, ça, c'est aussi bien. Après, voilà, il y a des récits qui font écho à notre vie personnelle où on se projette. Ça, c'est humain. On peut pas l'éviter. Mais moi, je trouve que c'est très bien en tant que journaliste, justement, de ressentir ça, puisque on doit le faire ressentir aussi aux auditeurs. Et moi, je me laisse envahir par les émotions pour mieux les retranscrire.
Comment se passe le procès jour après jour au quotidien? J'allais presque dire heure par heure. Guillaume Audat, Gladys Laffitte, avec nous dans Culture Média. On arrive tout de suite.
Philippe Vandel.
En compagnie de Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1, Guillaume Audat, journaliste, vous suivez tous les deux ce procès hors norme. 141 médias officiellement accrédités, c'est le procès des attentats dits du Bataclan. Et là, il n'y avait pas seulement le Bataclan, il y avait aussi les terrasses. 58 journalistes venus de l'étranger, une immense salle d'audience de 700 mètres carrés conçue. Comment s'organise concrètement votre travail de journaliste sur place? À quelle heure on arrive? À quelle heure on repart? Est-ce qu'on y va tous les jours? Comment ça se passe?
On arrive vers 11h30 en général. Alors les jours où il y a plus d'affluence, on arrive un peu plus tôt pour faire la queue. On arrive vers 11h30 à l'arrière du palais. Il y a un gros dispositif de sécurité auquel on est évidemment astreint, qu'on soit journaliste ou pas. On vérifie notre accréditation, on passe dans des rayons X, etc. Et l'audience commence à peu près chaque jour vers 12h45-13h. Officiellement, c'est 12h30, mais ça commence toujours avec un petit peu de retard. Ici, moi, pour Europe 1, j'y vais pas tous les jours, mais j'y vais 2 voire 3 jours par semaine minimum. J'essaye de faire au maximum.
Je vous interromps tout de suite. Comment vous choisissez les jours? Vous y allez, si j'ose dire, au pif, pardon, de cette expression triviale. Ou est-ce qu'on a un programme?
On a un planning qu'on se partage entre nous. Donc, on a une vue globale, en tout cas, de ce qui va se passer. Sur les témoignages de partie civile, on sait à peu près quel jour vient qui. Alors, moi, parfois, c'est vrai que j'y suis allée au pif, entre guillemets, parce que je connaissais pas les histoires que j'allais entendre. Mais du coup, je savais que, par exemple, c'était des proches de victimes décédées ou des proches de victimes tout court. Et donc, c'est un aspect que j'avais envie de traiter le jour où, puisque je l'avais jamais fait. Après, voilà, on a le planning au fur et à mesure. Donc, on sait, par exemple, que la semaine prochaine, il y aura Bernard Cazeneuve, qu'il y aura François Molins. Donc, c'est évidemment une journée où je vais aller. Voilà, on choisit un peu comme ça, selon intérêt, entre guillemets. Mais en fait, tous les jours sont intéressants. On aimerait y aller tous les jours. Mais en tout cas, ici, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Il y a une double part de travail dans votre travail, Gladys Laffitte, c'est que vous assistez au procès, à l'intérieur duquel vous n'avez pas le droit de faire des sons avec votre nagra, et ensuite quand vous sortez, vous pouvez interroger des personnes. Comment ça se passe et comment vous faites la balance, la part des choses entre le récit et le témoignage direct?
Alors moi je privilégie le récit d'audience, puisque c'est là où je retranscris l'émotion qu'il y a eu à la barre. Donc je décris les postures physiques, le ton, le timbre, si la voix est forte, si la voix n'est pas forte. Après il faut savoir que les parties civiles ont des cordons autour du cou, comme nous on a un cordon orange, on est identifié journaliste. Les parties civiles ont un cordon rouge ou vert. Rouge ça veut dire qu'elles n'ont pas envie d'être abordées par les journalistes. Donc la plupart des parties civiles ont un cordon rouge. Voilà. Celles qui ont un cordon vert, on peut les aborder, savoir qui elles sont, est-ce qu'on juge pertinent de les interroger sur tel ou tel moment d'audience. Mais sur les témoignages précis, il a été très rare qu'après une déposition à la barre, une partie civile soit d'accord pour être interviewée.
On va entendre un extrait sonore que vous avez recueilli pour Europe 1, les paroles de plusieurs victimes, plutôt parties civiles, dont celle de David et Stéphane. Ils se sont rencontrés le soir du Bataclan en plein cauchemar. Ils sont devenus depuis amis. On les écoute à votre micro.
Je m'appelle David et j'ai 29 ans.
Je m'appelle Stéphane, j'ai 54 ans. On s'est d'abord touchés avant de même se voir, puisque quand on arrive dans le couloir, David me prend la main et il me dit « ça va aller ».
En fait, je me suis dit « comment je peux passer 2h30 à côté de quelqu'un sans le toucher ?» Je me demandais s'il avait une famille, je me demandais ce qu'il faisait dans la vie et tout. Et je voulais me rapprocher de l'humain, en fait.
Dans la foulée, j'avais aussi besoin de retrouver les gens qui avaient vécu la même chose, parce que c'était tellement pas crédible qu'il fallait que j'échange avec ces otages. Comme une famille, on ne s'est pas choisi, puisqu'on était tous là par hasard. Et donc, c'est un peu des gens qu'on aurait choisi pour la puissance de ce qui nous unit. On n'a pas besoin de se donner des preuves de cet amour, parce que finalement, c'est un peu plus que de l'amitié.
Gladys Laffitte, comment vous les avez convaincus de parler et de même de parler ensemble?
Alors, il se trouve que je connais David maintenant depuis quelques années, forcément, avec le temps. Et du coup, je savais qu'il était très ami avec Stéphane. Donc, j'ai eu cette idée d'angle, comme on dit, parce que on allait entendre leur déposition au palais sur vraiment ce qu'ils avaient vécu dans le couloir. Ils étaient otages. Et je trouvais qu'il y avait une histoire dans l'histoire. C'était cette amitié qui était née de ce terrible événement. Et voilà, j'avais envie aussi de raconter un peu de joie, parce que c'est aussi ça, les parties civiles. C'est les belles histoires. C'est les côtés positifs qui sortent de ces événements, et celle-ci en était une pour moi.
Alors Gladys Laffitte, vous couvrez le procès pour notre station, on vient d'entendre un son. Guillaume Audat, vous couvrez le procès, non pas pour votre employeur, du moins pas pour l'instant, mais sur Twitter. Pourquoi ce choix?
Pourquoi ce choix? Parce que je me suis engagé. D'abord, j'aime bien ce média qui est Twitter et qui permet de relater en quasi temps réel des événements qui se produisent sous vos yeux. Et dans le cadre d'un procès de cette ampleur, où en effet, Gladys le disait, il y a parfois des haussements de voix, parfois il y a des crises de larmes, il y a des prises de position qui sont très fortes, il y a des avocats qui s'invectivent. Tout ça, ça permet d'être retranscrit, je dirais, minute par minute.
Et c'est en live.
C'est du live.
C'est voilà. En live. À 14h30, on apprend ce qui s'est passé à 14h29.
Absolument. Ouais, quand je suis assez rapide, j'avoue que j'ai quelques problèmes parfois.
Non, ça je veux dire par là que c'est pas un sujet qui arrive le soir.
Non, c'est pas un sujet qui arrive
temps,
le soir.
On est en temps réel. Alors vous réalisez ce qu'on appelle un thread, c'est-à-dire un fil continu de tweets qui suivent les uns après les autres sur le thème du sujet du procès. Le 8 septembre, par exemple, vous avez publié votre premier tweet sur le procès. Tout de noir vêtu, physique athlétique, barbe longue et moustache taillée, chevelure mi-longue, le regard sombre et fidèle à sa ligne djihadiste, Salah Abdeslam répond au juge Périès : « J'ai délaissé toute profession pour devenir combattant de l'État islamique ». avant-hier, vous en étiez à votre tweet numéro 2689. Vous excusez pour les coquilles parce que évidemment vous grattez beaucoup, comme on dit. Vous allez continuer jusqu'au printemps 2022 quand le procès va se terminer.
Oui, je me suis engagé dans cette histoire. Alors, c'est un peu un chemin sans retour. J'ai vraiment plus le choix. Alors je le fais aussi parce que j'ai quelques projets en tête et que je conçois aussi ce fil narratif comme un carnet de notes public. C'est public, mais ça reste mon carnet de notes auquel je me réfère.
L'actualité de la semaine, Guillaume Audat, c'était le témoignage du président François Hollande devant ce tribunal. Et là aussi, vous avez tweeté, évidemment, arrivée de François Hollande en salle d'audience. Juge Périès, bonjour Monsieur le Président. François Hollande, bonjour Monsieur le Président. Rire en salle d'audience. Le rire a sa place aussi dans ce procès.
Ouais, le rire a sa place dans ce procès. Je vous avoue que c'est des moments en fait auxquels on s'accroche un peu tous, les journalistes, mais également les victimes, les parties civiles, les avocats, sont des moments un peu de légèreté dans un moment aussi grave qu'est ce procès du 13 novembre. Quand on rit de bon cœur dans la salle parce qu'il y a un trait d'humour et François Hollande, c'est vrai, on est plutôt coutumier. Oui. Ou alors parfois certaines victimes qui à un moment donné, avec des mots un peu choisis, racontent des histoires un peu cocasses dans des moments de chaos absolu. Là, il y a des éclats de rire en salle. On se regarde tous et on est content parce que la minute d'avant, on était en train de verser des larmes, quoi. Donc il y a un peu de ça qui se joue. C'est un peu le théâtre des hommes, ce procès. Et vraiment, c'est assez formidable de pouvoir, dans un instant aussi court qu'une quinzaine de secondes, pleurer et rire tout à la fois.
Et Gladys Laffitte, Guillaume Audat, vous y retournez aujourd'hui? Vous y retournez quand?
Alors on n'y retourne pas aujourd'hui puisqu'il y a une coupure jusqu'à mardi prochain, puisque c'est le 13 novembre demain. Ça a été créé comme une petite bulle pour permettre à chacun aussi de commémorer les événements ou pas, en tout cas de faire une pause. Donc on y retourne mardi. Avec l'audition notamment de l'ancien patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure.
Voilà, et puis avec la polémique à venir, on a vu des documentaires là-dessus, on en a parlé, on vous écoutera sur l'antenne d'Europe 1. On vous suit, Guillaume Audat, on vous trouve sur Twitter.
Sur Twitter, absolument.
Audat, A-U-D-A. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture.